dans l'église. J'espère que vous passez un bon été. Et malgré les circonstances, j'avais vraiment cette pensée que même ce qu'on vit, avec ce qu'on vit, même l'été particulier qu'on vit, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'a pas créé, il n'a pas voulu les circonstances, c'est pas lui qui a envoyé le Covid, des choses comme ça. Mais il y a cette chanson qui dit « C'est la journée que le Seigneur a fait qu'elle soit pour nous un sujet de joie ». J'ai vraiment cette pensée-là, que Dieu a créé ces journées qui s'en viennent. Et que la raison qu'elles peuvent être un sujet de joie pour nous, c'est parce que c'est lui qui les a créées, avec une intention de nous aimer, avec une intention qu'on puisse ressentir la joie qu'il y a dans le ciel, la joie qu'il est. Puis le ciel n'est pas contaminé par ce qu'on vit là. Oui, Dieu est touché, son cœur est touché, mais il n'y a pas... Les circonstances n'atteignent pas le ciel. Alors qu'on puisse vraiment vivre cette joie qu'il y a. Un peu de la même manière que quand tu es en avion, il peut y avoir des tempêtes, mais si tu montes assez haut, ben tu es au-dessus. Donc il y a vraiment un peu cette image que Dieu nous donne avec ça, du ciel, qui n'est pas contaminé par les hauts et les bas qu'on peut vivre. Alors c'était simplement ma pensée. Accrochez-vous, même si ça a l'air de pas grand-chose votre été, accrochez-vous à cette joie qui vient du ciel. Ça peut-être, dans quelques années, vous vous retournerez, puis ça peut être votre meilleur été. Parce qu'il y a eu cette joie de Dieu qui était en vous et qui ne vous a pas quitté. Puis ça, c'est ma prière. Une autre pensée que j'avais, c'est que, si je dois être honnête, c'est chaque fois quand même un défi pour moi d'enregistrer. C'est pas la même chose que d'être en face. J'aime cette connexion qu'on peut avoir. J'aime quand vous êtes là, quand on est ensemble, puis on est été créé pour ça. Donc si on vit une frustration de ne pas pouvoir être ensemble, c'est normal, on a été créé pour être ensemble. Puis on va le voir ce matin. Mais je m'appuie sur le fait que si vraiment on croit que c'est Dieu qui bâtit son Église, et c'est surtout le Saint-Esprit qui est en nous, qui est cette vie en nous, puis que c'est lui la vraie vie de l'Église, ce qui nous tient ensemble, ben lui, il n'est pas confiné. Et je m'appuie sur le fait qu'on puisse sentir quand même cette connexion de manière surnaturelle. Et que si on est seul chez nous, qu'on puisse sentir cette connexion dans l'esprit. Et puis aussi que ce temps puisse être vraiment un temps de célébration. Puis qu'on puisse célébrer qui est Dieu, se réjouir de qui est Dieu ce dimanche matin. Puis se réjouir aussi des gens qui sont assis à côté de nous. Se réjouir d'avoir la famille qu'on a, d'avoir les personnes sous le toit avec nous, qu'on puisse vraiment célébrer, qu'on puisse vivre l'Église, pas uniquement avec l'écran, relation avec l'écran, mais qu'on puisse se réjouir des personnes. Puis de dire, ben, même si on n'est que deux, merci parce que je ne suis pas tout seul. Et vraiment, si vous êtes tout seul, j'avais vraiment cette pensée, je veux prier pour que vous puissiez sentir de manière surnaturelle que vous faites partie, que le Saint-Esprit, alors qu'il est présent en moi, qu'il est présent dans chacune des personnes, il est présent en vous maintenant et il nous unit. Lui est connecté avec lui-même. Il n'est pas séparé. Puis de manière toute pratique, je vous encourage à appeler quelqu'un. Appelez quelqu'un aujourd'hui, si vous êtes tout seul, même si vous êtes ensemble avec d'autres personnes, appelez quelqu'un qu'on puisse vivre, que vous puissiez vivre le corps. Prenez le téléphone et appelez quelqu'un d'église. Juste pour dire, hey, on se réjouit, on célèbre ensemble aujourd'hui. Pas que l'église, c'est que le dimanche, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Qu'on puisse célébrer aujourd'hui ensemble. Et donc, je prie, Papa, merci pour qui tu es. Merci parce que tu as créé ces journées qui s'en viennent. Tu as créé cet été. On veut déclarer ensemble que ça puisse être pour nous un sujet de joie. C'est ton intention, et bien on veut se fier à ton intention, et pas à nos conditions, mais à ton intention. Et on veut avoir foi de vivre ton intention, ce que tu as désiré. Alors on reçoit ta joie, la joie de l'été que tu as prévu. Et merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous unis. Merci parce que tu es présent dans chacune famille. Je prie un esprit de célébration, qu'on puisse célébrer. Célébrer, que même si on est tout seul, qu'on puisse appeler quelqu'un, connecter, et surtout sentir, Saint-Esprit, que je veux vraiment prier que chacun sente de manière surnaturelle que tu es présent, et qui font partie. Amen. Yes. Juste de prier, ça. De se rappeler de ces réalités-là. Moi, ça m'aide. Même si je suis décalé de quelques jours avec vous, j'ai l'impression qu'on est ensemble. On a terminé en juin une série qui s'appelle « Rebâtir les cœurs ». Et on a vu que même si on découvre l'amour de Dieu qu'il a pour nous, même si on lui donne notre vie, notre cœur garde des séquelles. Et même en tant que croyant, même en tant qu'enfant de Dieu, on peut continuer à avoir notre cœur qui peut être abîmé et qui garde des séquelles. Et Dieu nous aime trop pour nous laisser comme ça. Il nous aime comme ça, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Et donc, on avait vu toute cette série de rebâtir les cœurs, où Dieu désire vraiment rebâtir nos cœurs. La dernière fois, en juin, j'ai un peu comme terminé cette série, mais tout en ouvrant déjà un peu une perspective sur la prochaine. Et on va pouvoir démarrer pleinement la nouvelle série aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez pu écouter Luc Dumont. C'était vraiment le fun de l'avoir parmi nous, même si c'était sur vidéo. Et puis aussi Audrey la semaine passée. Si vous n'avez pas pu entendre Audrey, je vous encourage vraiment à aller écouter. Ça vaut la peine, vraiment. Ça va vous faire du bien, ça va vous édifier et puis ça va vous aider à être replacé avec Dieu d'une manière qui va vous faire du bien puis vous libérer. Donc, guérir, rebâtir les cœurs. On avait vu fin juin que même si Dieu voulait désirer ça, c'était pas le risque, ça pouvait être d'en faire un but en soi. Être parvenu, de guérir, c'est le plan de Dieu, de nous guérir, mais c'est pas un but final. Et si on pense à Viktor Frankl, lui parle beaucoup de Viktor Frankl. C'était un philosophe qui a étudié entre autres la psychanalyse avec Freud, mais qui s'est distancié après de Freud parce que Freud reliait beaucoup la plupart des problèmes des névroses avec la sexualité. Mais lui, il a réalisé que un des plus grands besoins de l'homme, c'était d'avoir du sens à sa vie. Il a été enfermé dans les camps de concentration et il a réalisé que si on trouvait un sens à ce qu'on vivait, on était capable d'endurer beaucoup de choses. Comme par exemple, si je suis prêt à marcher des heures et des heures pour aller chercher à boire, si je sais que cette eau-là va m'amener la vie, marcher des heures et des heures sans savoir pourquoi, peut-être que je suis pas prêt à le faire, ou ça va être encore plus dur de marcher ces heures-là. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais capable de faire des marches en montagne, j'aimais ça, mais alors la marche du dimanche après-midi, là, tourner en rond, là, je détestais ça. Mais vraiment, je pouvais chialer pour un 30 minutes ou un 20 minutes, par contre j'étais capable de marcher 3-4 heures de suite, puis j'étais motivé et tout. Et j'ai découvert que mes enfants c'est pareil. Ils peuvent bondir comme des cabris quand il y a un but, mais alors quand il n'y a pas de but, puis que le but c'est juste d'être en famille, puis qu'ils n'ont pas vraiment compris, parce qu'ils disent, oh, ben, on peut être en famille à la maison. En tout cas, c'est beaucoup plus galère de les motiver. Mais ça, c'est bien du fait que qu'on a besoin d'un but. On a besoin d'un but pour vivre, et c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, la série Rebâtir les cœurs, on est guéri pour, en vue de quelque chose. On va poser la question au Créateur. Qu'est-ce que le Créateur dit sur pourquoi on est là? Pourquoi ça vaut la peine d'être guéri, donc dans le sens, pourquoi ça vaut la peine d'être rétabli? Pourquoi on avait été créé à l'origine? Et il y a une phrase qui résume tout le commandement de Dieu, tout le sens que Dieu a donné, l'objectif que Dieu a donné dans la Bible. Et c'est résumé à plusieurs endroits, mais dans Matthieu 22, au verset 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. » Alors ça parle de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, ça parle de plusieurs choses, mais en gros ce que ça voulait dire, tu l'aimeras de tout. Les Juifs étaient beaucoup moins à sectoriser les choses, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, Tu as été créé pour aimer Dieu. On a été créé pour aimer Dieu. Donc, guéri pour aimer Dieu. Donc, c'est pour ça que tant qu'on ne peut pas vivre cette relation personnelle avec Dieu, il nous manque quelque chose. On peut avoir la vie la plus gratifiante ou la plus remplie, la plus active possible, il va nous manquer quelque chose parce qu'on a été créé pour aimer Dieu. Mais il y a un verset qui suit. Le verset 38 dit, ça c'était le premier, maintenant il y en a un deuxième qui est semblable au premier. C'est-à-dire qui lui ressemble, qui est de la même catégorie, qui découle, qui va avec. Donc, c'est dit, puis vous le connaissez, je pense que même des gens qui ne vont pas à l'église connaissent ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense que c'est que dans la Bible qu'on parle du prochain. Je me rappelais quand j'étais enfant, qu'est-ce que ça voulait dire le prochain? Moi, je résume comme ça. Le prochain, c'est le prochain. C'est le prochain que tu croises, le prochain que tu vois, le prochain que tu peux aimer. Alors, il y a des gens qui sont plus souvent nos prochains. Je pense à nos enfants, à nos conjoints, conjointes. Ils sont assez souvent nos prochains. Alors oui, il y a un encouragement à investir encore plus en eux, à les aimer encore plus, parce que ils sont pas mal nos prochains. Et il y a des gens qui sont moins souvent nos prochains. Mais le prochain, c'est... Pose-toi pas la question, c'est le prochain que tu rencontres. Quelqu'un qui est sur ta route, aime-le. Quelqu'un qui est à côté de toi, aime-le. Quelqu'un qui a ton travail, aime-le. Quelqu'un que tu rencontres à l'épicerie, aime-le. La personne qui est à la caisse, la caissière, aime-la. À la pharmacie, aime-la. Quand tu fais une promenade, aime-la. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Donc, le deuxième commandement. Donc, nous, individuellement, on aime Dieu, mais on s'aime les uns les autres. Et en s'aimant les uns les autres, le monde reconnaîtra. C'est un verset qui dit ça. Le monde reconnaîtra qui je suis. Donc, notre sens de s'aimer les uns les autres, ça fait de nous le corps de Christ. Donc, il y a un verset, j'aimerais qu'on puisse lire, dans Éphésiens 4, versets 15 à 16. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons en tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien ordonné, est solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. La manière dont on est uni, la manière dont on est un corps, c'est grâce aux articulations. Grâce aux articulations dont il est muni. Et j'aimerais bien... qu'on puisse... Donc, si on prend une articulation, Luc pourrait l'expliquer mieux que moi, mais si on prend une articulation, dans une articulation, il y a plusieurs parties, mais si on prend les parties principales, il y a les ligaments. Les ligaments relient un os à un autre os. Il y a le cartilage. Le cartilage qui est un peu cette zone tampon qui permet que les deux os se fassent pas mal l'un l'autre. Et les tendons qui relient le muscle à l'os. Le ligament, pour moi, représente l'engagement. L'engagement qu'on a les uns vers les autres, comme dans une famille. On est ces liens familiaux. Hein. On s'appelle frère et sœur quand on est croyant. Pourquoi ? Parce qu'on est tous des enfants de Dieu, on a tous le même Père. Et c'est ça qui nous lie. Ce qui nous lie, c'est pas parce qu'on est tous fins ou parce qu'on aime tous le volleyball, ou je sais pas pourquoi il y a le volleyball qui m'est sorti, mais ou on aime tous les autos ou etc etc. Donc c'est pas un club, on n'est pas le club des Honda Civic ou etc, ou le club des partisans. On est ensemble parce qu'on est enfant de Dieu. Donc il y a un engagement indéfectible qu'on a les uns vers les autres. Et cette liaison, cet engagement dit, je te comprends pas là, tu m'énerves, mais je suis lié à toi. Fait qu'à un moment donné, on va trouver. À un moment donné, on va y arriver. À un moment donné, on va se comprendre. Parce que je suis engagé envers toi. Ligament, cartilage. Le cartilage, qui est cette zone tampon, pour pas que les deux os se fassent mal l'un à l'autre, moi, ça me fait penser vraiment à la grâce. La grâce qu'on peut donner l'un avec l'autre. Stephen Covey, qui a été conseiller de je pense que c'était Bill Clinton, un des présidents des États-Unis, il dit, si on veut vraiment avoir des relations, si on veut vivre ces vraies relations les uns avec les autres, il y a un principe quand on est avec quelqu'un, c'est de chercher à comprendre l'autre avant d'être compris. C'est vraiment vital, vital d'avoir cette grâce. Puis il y a la grâce de pardonner quand quelqu'un nous a fait quelque chose, mais même cette grâce de permettre à l'autre de s'expliquer ou de partir du principe que l'autre dit quelque chose qui a du sens. Et que si je ne suis pas d'accord, c'est peut-être parce que je n'ai pas tout compris. Je peux toujours être pas d'accord à la fin, mais j'ai peut-être pas compris. Donc, le cartilage. Cartilage qui est cette grâce. Grâce, je vais t'accueillir, je veux comprendre, mais grâce aussi, je te pardonne quand ça va pas. Donc, le cartilage, la grâce, présomption d'innocence, chercher à comprendre. Et c'est aussi il y a quelque chose que je voulais revenir, excusez-moi, quelque chose au niveau des ligaments. L'engagement qu'on a les uns vers les autres, puis d'ailleurs dans Éphésiens, ça, il parle de ça en début. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Donc, la tête du corps. L'engagement, quand tu es engagé envers quelqu'un, tu t'engages à lui dire la vérité dans l'amour. Donc, tu t'engages à lui dire la vérité. Et tu t'engages à lui la dire dans l'amour. Et ça, c'est le ligament. Je suis engagé envers toi. Je vais te dire ce qui est. Et c'est une des plus belles choses qu'on puisse offrir à un ami ou à notre conjoint. C'est de dire la vérité dans l'amour. Puis là encore, je pense que des fois, avec tout ce qui est réseaux sociaux, on a perdu un peu ce que c'était. La compréhension de dire la vérité dans l'amour. On a même de dire la vérité. On a pris l'étendard de la liberté d'expression comme une finalité en soi. Et là encore, la liberté d'expression n'est pas une finalité. La liberté d'expression, c'est un droit, mais en vue de pouvoir édifier les autres, en vue de pouvoir faire avancer les choses, en vue de pouvoir faire du bien. La liberté d'expression, c'est une responsabilité. C'est pas une finalité, c'est-à-dire que je peux dire ce que je veux, quand je veux, qui me passe par la tête, et puis j'ai pas de conséquences parce que liberté d'expression. Et quand je vois certains commentaires sur Internet, quelqu'un qui dit quelque chose, une autre personne qui ne la connaît absolument pas, qui lui dit « t'es cave, tu comprends rien, ça », on a perdu cette idée de que pour parler dans la vie de quelqu'un, ça nous prend un droit. J'ai pas le droit de parler dans la vie des gens avec qui j'ai pas cette relation. J'ai pas le droit de parler dans la vie de quelqu'un avec qui j'ai pas cette articulation qui est solide, avec qui j'ai pas ce ligament. Si j'ai pas ce ligament, ces tendons et ce cartilage, je peux pas dire la vérité dans l'amour. Et c'est pas nécessairement des gens qu'on connaît depuis longtemps. Mais si on n'a pas cet engagement de cœur d'aimer et de dire, je te dis quelque chose, mais je ne vais pas partir après. Et puis, je te laisse te débrouiller avec ce que je t'ai balancé. Dire la vérité dans l'amour, ça veut dire la vérité dans le but que cette personne puisse être libre. Et ça parle aussi de la manière dont on va le dire. Et ça, pour ça, ça prend une relation. Donc, dire la vérité dans l'amour, ça prend des articulations. De travailler sur les articulations, pour que les articulations soient solides. La liberté d'expression, c'est le droit de ne pas être réprimé dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on pense. Mais ça ne nous enlève pas la responsabilité que ce qu'on prononce, ce qu'on dit, nous, on doit le filtrer pour que ce soit une bénédiction pour les autres et que ça aide les autres. Et des fois, être une bénédiction, aider les autres, c'est dire des choses difficiles, dénoncer des choses. Mais la liberté d'expression, c'est pas un chèque en blanc. C'est plutôt une responsabilité qui dit, OK, c'est pas l'État qui prend cette responsabilité parce qu'on n'est pas contrôlant, mais on redonne cette responsabilité à l'individu qui, lui, doit contrôler sa langue. Ça, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'être responsable de ses actes. Dans un pays où il n'y a pas la liberté d'expression, ben, tu n'as pas de responsabilité parce que c'est l'État qui prend cette responsabilité. Donc ça, c'est peut-être quelque chose aussi. Soyons conscients de la responsabilité qu'on a. Ça, c'est la liberté d'expression. Donc, si on revient, les ligaments, l'engagement, dire la vérité dans l'amour. Je suis engagé envers toi, à marcher avec toi, à te pardonner. Ça, c'est le cartilage, la grâce qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et même Jésus, il nous donne un exemple aussi avec Pierre. Pierre qui l'a renié, mais à qui Jésus redonne son mandat. Donc Dieu renouvelle son élan, son engagement envers Pierre, même après que Pierre l'a renié. L'étendons. J'en arrive au... On se rapproche du cœur du message d'aujourd'hui. Le corps libéré, l'étendons. En fait, j'ai appris quelque chose en faisant mes recherches. Et là encore, si vous voulez des explications plus détaillées, allez demander à Luc. Les tendons se relient, c'est la fin du muscle qui est attaché à l'os. Et ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, le tendon fait partie de la jointure, fait partie de l'articulation. D'ailleurs, souvent, on a des petits problèmes avec. Mais il n'est pas lié à un autre os, il lie l'os au muscle. C'est-à-dire que le tendon, il est relié à l'action. Le tendon, il dit, vous êtes beau, vos deux os là, le bras, mais je suis relié à l'action, le muscle qui bouge. Et c'est là qu'on voit, mais en fait, Dieu, il nous a créés pour l'action. Dieu a créé son corps pour l'action. Là encore, on a été créé pour aimer Dieu, pour s'aimer les uns les autres, pour former ce corps. Mais ce corps, il a été créé pour l'action. Qu'est-ce que Jésus dit juste avant de quitter la terre? Matthieu 28. Excusez-moi, il fait chaud. J'ai éteint la ventilation parce que sinon on ne s'entendrait pas parler. Donc, Matthieu 28, on l'a beaucoup lu ces derniers temps, versets 18 à 20, mais ça fait du bien, on a besoin de le relire, puis de le lire, puis de le relire. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, c'est la fin du livre de Matthieu. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le corps, vous êtes le corps, il dit vous êtes le corps, je vais être avec vous, mais je vous envoie. Allez, bougez. Et dit je suis avec vous tous les jours. Le je suis avec vous tous les jours, il parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la première fois qu'on en parle, c'est tout au début dans Genèse, et ça dit « Et l'Esprit de Dieu bougeait à la surface des eaux ». Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui bouge. C'est Dieu qui est en nous et qui bouge en nous. Ça peut être le vent. Souvent, on parle du vent, le feu, la rivière, donc c'est tous des éléments qui sont en mouvement. Le Saint-Esprit bouge. Le corps de Christ, nous, habités du Saint-Esprit, on a été créés, on a du sens seulement si on bouge. Un corps qui reste sur place, tu peux faire du bien à ton corps, tu peux le tenir en forme, mais si c'est juste pour te regarder dans la glace, tu vas vite perdre le sens de ce que tu vis de ta vie. Le but d'un corps en santé, c'est de pouvoir bouger, c'est de pouvoir monter des montagnes, c'est de pouvoir travailler, c'est de pouvoir faire du bien. Le but d'un corps en santé, c'est de faire du bien. Le but d'une âme guérie, c'est de pouvoir bouger, que le Saint-Esprit puisse bouger au travers de cette personne. Donc, physiquement, on a été créé pour bouger. C'est pour ça qu'en confinement, c'est difficile. C'est pour ça que c'est aussi talent. Et avec la grâce de Dieu, on peut le vivre. Mais c'est pour ça que nous cherchons, on a été créé pour bouger. Mais aussi spirituellement, on a été créé pour bouger. On a été créé pour que le Saint-Esprit bouge au travers de nous. On a été créé pour qu'il y ait des choses qui se passent, que le ciel puisse couler au travers de nous, qu'il y ait des personnes qui soient guéries, des personnes qui soient touchées. Alors, le corps de Christ a été créé pour bouger. Les tendons, ça nous lie aux muscles. Et les muscles sont faits pour bouger. On va revenir un petit coup au tendon. Donc, Dieu nous envoie faire des disciples partout dans le monde. Puis dans Éphésiens 4, donc le bout qu'on a lu, mais avant, juste avant, Paul parle des cinq ministères. Et c'est vraiment intéressant de voir que c'est cet endroit où on parle, Jésus n'en parle pas, mais donc nous, le corps de Christ à qui Dieu a délégué le mandat de faire des disciples. Et là, je refais vite une petite parenthèse. On avait vu la dernière fois que le mot « faire des disciples », c'est quelque chose qui fait peut-être un peu peur, parce que à cause des sectes, on associe souvent le mot « disciple » au mot « secte ». Donc on voit cette image du disciple, que la personne qui meurt à elle-même, à toute sa personnalité, puis qui se fond dans un moule, et puis qui meurt à elle-même. Puis oui, quand on suit Dieu, on est appelé. Il y a une expression qui existe, qu'on utilise souvent, la mort à soi-même. Mais on ne doit pas mourir à notre personnalité. On meurt aux choses qui nous empêchent d'être libres. On meurt à notre nature pécheresse. On meurt à ce qui nous entrave, ce qui nous fait du mal. On meurt pas à qui on est. Puis peut-être que c'est l'image que vous avez si vous n'êtes pas croyant. Peut-être c'est l'image que vous avez qu'être croyant, c'est mourir à tous les plaisirs, tout ce qui est fun, tout ce qui est qui fait aussi notre personnalité, puis se calquer dans un moule avec des règles. C'est pas ça que ça veut dire, la mort à soi-même. La mort à soi-même, ça veut dire je crois que c'est pas moi en tant qu'humain qui est le mieux placé pour savoir ce qui est bon ou mal pour moi. Je crois que c'est mon Créateur. Et je lui fais confiance qu'il m'aime de tout mon cœur, de tout son cœur, et qu'il a donné sa vie pour moi, pour me libérer, son Fils aimant pour moi, pour que moi je puisse vivre libre. Et lui, il sait ce qui est le mieux, et lui, il veut le mieux pour moi. Et il m'a créé unique, spécial, et lui-même veut développer ce côté spécial et unique. Donc c'est simplement ça, mourir à soi-même. C'est mourir à notre propre gouvernement de nous-mêmes. Mais c'est pas mourir à notre personnalité. Ça aurait pas de sens avec qui Dieu est. Dieu nous a créés. Nous a créés différents. Nous a créés avec une personnalité, des couleurs, nous a créés magnifiques. Il y aurait pas de sens à rendre tout ça gris ou pastel ou tout d'une même couleur. Ça c'est un non-sens par rapport à qui est Dieu. Donc si c'est l'image que vous avez de Dieu, moi j'aimerais vous dire c'est le contraire. Donc, quand on parle du corps, pour l'édification du corps, pour aider ce corps à grandir toujours plus à l'image de Jésus, Paul parle dans Éphésiens que Dieu a donné des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des enseignants, des apôtres. Et puis, sûrement, on en parlera dans un autre message, peut-être un peu plus profondément, mais ça montre à quel point Dieu a donné des dons différents. Et si on prend un peu ces évangélistes, prophètes, pasteurs, enseignants, apôtres, c'est toutes des choses que Jésus faisait. Jésus était parfait les cinq. Mais quand il est parti, il a dit, c'est maintenant, c'est vous mon corps. Donc en fait, ces caractéristiques de Jésus, ou ces couleurs de Jésus, ces facettes de Jésus, elles sont réparties sur le corps. Et puis si on réfléchit à faire des disciples, c'est vraiment dans ce cadre-là que ça prend tout son sens par rapport à aller dans le monde, faire des disciples. On a l'évangéliste qui est celui qui va rejoindre, qui va connecter. Puis Jésus, c'est ça qu'il faisait, il connectait avec les gens. Il était prêt à aller à midi pour trouver une femme qui avait eu plusieurs maris, alors que midi c'était l'heure la plus chaude, on n'y allait pas, il était prêt à aller la retrouver là. Donc Jésus allait, il allait là où il y avait les pauvres, il allait rejoindre, il a été rejoindre Zachée, il était prêt à aller rejoindre les gens. Donc ça c'est l'onction d'évangéliste, c'est celui qui a envie d'aller rejoindre. Ça ne lui fait pas peur d'aller rejoindre, d'aller rencontrer les gens. Parce qu'il les aime, il dit, ah mais si vous saviez comment Dieu vous aime, si vous saviez, puis il va les rejoindre. Et puis ensuite, on a le prophète qui dit, mais ça c'est peut-être ce que le monde dit, mais ça c'est ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit de toi. Voilà qui tu es. Puis le prophète, il nous aide à connecter directement avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et souvent, apprendre à écouter la voix de Dieu, on a mis ça comme des choses à vivre quand on avait 15 ans d'expérience de croyant. Moi, je crois que même des gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent entendre la voix de Dieu. On a été créés pour entendre Dieu, pour être en connexion avec lui. Donc, même les enfants, moi, j'encourage le plus vite possible à avoir cette connexion. Et ça, c'est vraiment cette soif de connexion avec le ciel. C'est le prophète qui porte ça. Et Jésus, il connectait les gens avec Dieu. Il leur déclarait aussi qui ils étaient. Il dit, le Père dit que tu es. Pierre, tu es tel et tel, et sur toi je bâtirai mon église. Toi, tu crois que t'es ça? Toi, tu crois que t'es un pécheur? Moi, je te dis que tu es ça. Le Père dit que tu es ça. Il disait aussi... Donc c'est ça, il déclarait ce que le ciel disait sur les personnes. Le pasteur, il prend soin, il fait du bien, il dit, je ne te juge pas. Par contre, je t'aime trop pour te laisser comme ça. Je t'aime trop. Le pasteur, il est là pour aider à rebâtir les cœurs. Pour accueillir. Puis Jésus, il prenait du temps, il aimait les gens. Il aimait les gens. Il n'utilisait pas les gens, il aimait les gens. Le pasteur aime les gens. L'enseignant, il dit, ben, voilà ce que dit la parole. Jésus était tout le temps en train d'enseigner. Voilà c'est ça qu'ont révélé les prophètes. C'est ça que David, il explique ce que David disait quand il parlait de son Seigneur. Donc, l'enseignant explique, il explique la parole. Il dit, voilà, maintenant que tu as été rejoint, que tu es en connexion avec Dieu, que tu sais qu'on t'aime, que tu es accepté, c'est important que tu sois solide, que tu sois nourri de la parole de Dieu, nourri des enseignements de l'Église. Et on a l'apôtre qui dit, mais tu as aussi été créé pour libérer d'autres personnes. Tu as aussi été créé pour te multiplier. Tu as aussi été créé pour être libéré dans tes dons. Puis ça, c'est vraiment le but de l'apôtre. Et Jésus avait ça, il disait, tu vas être pêcheur d'hommes, vas-y, t'es prêt, go, allez-y. Le Jésus qui envoyait ses 70 disciples, il dit, allez, essayez, allez. Et puis ça, c'est le côté apostolique qui libère, qui dit, allez-y. Donc, on va pas développer plus, mais ça montre à quel point on a été créé différent pour aller, mais pas juste différent pour être différent, mais différent pour aller les uns avec les autres. Parce que tous ces ministères étaient unis dans la personne de Jésus. Donc on a besoin de tous de manière égale. On ne peut pas dire qu'on a besoin d'une partie de Jésus un peu plus qu'une autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans 1 Corinthiens 12, il compare le corps de Christ à un vrai corps en disant, mais on a besoin de toutes les parties du corps. Tout ce qu'on a besoin était réuni en Jésus. Donc, il n'y a pas une partie de Jésus qu'on n'a pas besoin. Donc, ces cinq ministères étaient réunis en Jésus. Il n'y a pas une partie qu'on n'a pas besoin, ou plus besoin qu'une autre, etc. On a besoin égal. On veut, si on veut vraiment être le corps, on veut tout vivre. Et ça, c'est valable aussi avec les dons que le Saint-Esprit donne à chacun, don de guérison, don de discernement, don de service. Et c'est valable aussi avec les différentes personnalités. Il y a des personnalités qui sont plus artistiques, pleines de couleurs, d'autres qui sont plus stables. Et Jésus avait tout ça. Et pour vivre le corps, on a besoin de tout ça. Il y a Paul aussi qui continue en disant, il y a eu souvent, et c'est pas nouveau, ceux qui sont différents de nous, ça nous fait peur. Puis on est convaincu que, si tout le monde est comme nous, ça serait donc ben mieux. Et puis c'est quand même nous qui sommes plus importants. Les gens s'en rendent pas compte parce que en fait ils voyaient pas les choses comme nous, mais s'ils voyaient, ils verraient à quel point c'est vraiment comme ce que nous on porte qui est le plus important. Et même les gens des fois ils aidaient pas à ça, ils disaient mais nous on est d'Apollos, nous on est de tel évangéliste, nous on est en lien avec Paul. Et puis il dit il y en a un qui a planté, il y en a un qui a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Donc on a tous notre place, mais c'est le Saint-Esprit qui bouge, c'est le Saint-Esprit qui fait grandir. J'approche de la fin, mais j'aimerais juste qu'on arrive au point principal que je voulais partager. Le tendon. Si on revient au tendon. Est-ce que malgré que on sait qu'on a besoin les uns des autres, est-ce que malgré qu'on sait que Dieu nous a créés différents, avec des dons différents, des couleurs de personnalité différentes, même des couleurs de peau différentes, est-ce qu'avec tout ça, ça rend les choses faciles de travailler les uns avec les autres? Bien sûr que non. Une des choses qui est importante pour être les uns avec les autres, pour choisir, pour rendre cet engagement du ligament plus facile et cette grâce du cartilage plus facile, c'est d'avoir cette culture, mentalité d'honorer l'autre. Et pour pouvoir honorer l'autre, on honore quelqu'un qu'on estime, on honore quelqu'un à qui on voit de la valeur. Et bien sûr, il y a le fait, c'est le ligament, il y a l'engagement qui dit « Moi, je t'estime parce que je suis lié à toi, parce que tu es mon frère ou ma sœur en Christ. » Donc il y a cet engagement qui amène cette sécurité. À cause de qui on est, on décide. Mais il y a aussi, quand nos yeux s'ouvrent sur l'importance de quelqu'un, c'est beaucoup plus facile après de l'honorer. Et en fait, tout le monde est important. D'ailleurs, Paul est très clair. Il dit, vous lirez dans 1 Corinthiens 12, les parties les plus insignifiantes sont souvent les plus importantes, ou les parties les plus méprisées sont souvent les plus importantes. Donc, tout le monde a son importance. Mais là, j'aimerais vous laisser avec ça. Comment est-ce qu'on peut trouver l'importance aux autres? Comment est-ce qu'on peut découvrir le plus facilement l'importance des autres? Le corps a été créé pour bouger. C'est en bougeant. Et des fois, on aimerait être tout prêt avant de bouger, mais c'est vraiment en bougeant qu'on découvre l'importance de tout le monde. Une main, elle peut dire « Ah, moi je suis la plus importante », mais du moment qu'elle bouge, tout d'un coup, elle réalise « Purée, il y a besoin des pieds, il y a besoin des genoux, il y a besoin de des yeux pour voir, il y a besoin de tout. » Ok. Puis tout d'un coup, elle dit « Oh, finalement, juste ma place, je suis bien content que les autres soient là. » L'œil, pareil, il dit « Ah, oh, moi je suis plus important. » Quand il regarde la télé, il dit « Oh, moi je suis plus important. » Mais du moment que tu te mets à bouger, il réalise « Ah, oh, mais il y a besoin de tout le monde. » Donc, en bougeant, ça nous montre l'importance des autres. Petit témoignage, nous on a fait une activité fabricant de joie, mais chaque fois qu'on sort, chaque fois qu'on part pour aller prier avec les gens, qu'on fait une activité, je réalise à quel point j'ai besoin des autres personnes. À quel point j'ai besoin d'une personne qui reçoit une parole de Dieu. Des fois, c'est même des enfants qui entendent Dieu, puis après, il y a quelqu'un qui entend une autre parole, puis on voit que les deux vont ensemble, mais si on en avait qu'une, on n'aurait pas compris. J'ai besoin de quelqu'un qui est organisé. Ah, c'est tellement, ça me fait du bien, les gens qui sont organisés, des gens qui sont pleins de contacts, des gens qui arrivent à appeler facilement, qui sont en bonne relation avec des personnes. Moi, j'ai une idée de peut-être de ce que je veux faire, mais si j'ai pas de contact, je peux pas le faire. Et tout ça, tant que je suis assis, tant qu'on fait rien, ben je peux pas mal me persuader que je suis le plus important et que je suis le meilleur ou que je suis le plus nécessaire. Mais quand on est en action, je réalise à quel point les autres sont nécessaires. Donc le corps libéré, le corps a besoin de toutes les parties qui sont en accord avec elles-mêmes, en accord les unes avec les autres pour être libérées, mais il a besoin d'être libéré pour réaliser qu'il est fait pour ça, pour réaliser que chaque partie est importante. Donc on a besoin de bouger. Et j'aimerais vous dire ça, même si on est encore en confinement, même si on est encore en distanciation sociale, on a été créé comme église pour impacter notre région. On a été créé pour bouger les uns avec les autres. Et en partant en mission les uns avec les autres, les amis, là, pas le dimanche matin, le dimanche matin ça aide un peu, mais en partant, en vivant l'église, là on réalise qu'on a besoin les uns des autres. Quand on veut aller prier pour quelqu'un, on réalise, purée, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Quand on veut aller faire une action comme faire du bien autour de nous, amener la culture du royaume autour de nous, là, on réalise qu'on a besoin les uns des autres. Donc, Dieu nous avait créés avec des dons différents. On a besoin les uns des autres. Et c'est vraiment en bougeant. Je reprends encore, c'est pareil avec l'image d'un vélo. Le guidon, il peut se trouver vraiment le plus fin. Ou le cadre, admettons le cadre. Le cadre, ah, moi je suis un cadre en carbone. Hein, là je parle à Gérard entre autres, qui aime le vélo. Je suis un cadre en carbone. Mais le cadre, il peut se persuader d'être la partie la plus importante du vélo. Mais quand il commence à rouler, il dit oh purée, je suis content qu'il y ait des bons pneumatiques. Je suis content qu'il y ait un bon guidon. Je suis content qu'il y ait une bonne selle, comme ça la personne peut s'asseoir. Donc dans l'action, on a été notre sens, pour revenir à notre besoin de sens, on a été créé pour l'action. Si on est le corps de Christ qui accueille l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu bouge. C'est un esprit d'action. Donc on a été créé pour l'action. On prend notre sens dans l'action. On reconnaît les besoins des autres dans l'action. On a besoin d'être en action. J'avais envie de créer encore un peu d'anticipation. Oui, on peut pas tout faire comme on veut, mais qu'on puisse être le plus en action possible. Parce que c'est dans l'action qu'on reconnaît les uns, qu'on a besoin des autres. Pareil pour une auto. Une auto, le moteur peut se penser le plus smart, le plus important, mais tu peux avoir la meilleure auto si t'as pas des bons pneumatiques, et ben ton auto elle sort dans le virage. Donc tu peux avoir des mauvais amortisseurs. Donc chaque partie est importante. Donc dans l'action, rappelez-vous, ligament, l'engagement les uns vers les autres, la grâce les uns envers les autres. Mais le tendon, on est fait pour l'action. On a été créé pour l'action. Un corps libéré, c'est un corps en action. Oui, on a besoin de moments d'être restauré, on a besoin par moments d'être juste en contemplation, mais on a été créé pour l'action. Et c'est le mandat fait des disciples. Et en faisant des disciples, on l'a vu avec les couleurs que chacun a, soit évangéliste, de pastoral, apostolique, de doctoral, ou de, comme on dit, doctoral, c'est d'enseignant, ou prophétique, c'est vraiment comme ça, on a besoin de tous ces dons-là pour rejoindre les gens, et puis pour faire des disciples autour de nous. Et Dieu ne nous appelle pas à faire des croyants, des convertis. Il nous appelle à faire des disciples. S'il faisait que des croyants, des convertis, on aurait juste besoin d'évangélistes. Mais Dieu nous appelle à faire des disciples. Et on peut même faire des disciples de personnes qui... Et j'aimerais terminer avec ça. Dieu nous appelle à faire des disciples tout le temps, en tout lieu, avec les gens qui nous entourent. Même si ce n'est pas des gens croyants. Parce que chaque personne a été créée pour un but bien plus grand. Et souvent, quand on ne connaît pas Dieu, ils ne peuvent pas vivre pleinement le but pour lequel ils ont été créés. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec cette culture de liberté qu'il y a dans le ciel, et ils ne peuvent pas vivre avec cette conscience qu'ils ont été créés pour le plaisir du Créateur, pour lui amener de la joie, pour amener de la joie les uns aux autres. Donc, faire des disciples, c'est ouvrir les yeux à ces personnes. Je me rappelle, il y a 2 semaines, un monsieur qui restaurait sa voiture. C'est bizarre, mais quand j'ai vu ça, ça m'a rempli de joie. Je suis pas un connaisseur des vieilles autos ou des muscle cars, mais de voir ce monsieur qui restaurait son auto, j'étais comme, ben voilà quelqu'un qui utilise ses dons. Puis j'ai voulu lui dire, je lui ai dit, mais ça fait du bien de voir quelqu'un qui a un don et qui l'utilise. Je crois vraiment que je crois que Dieu donne des dons à chacun. Et ça le remplit de joie quand il y a quelqu'un qui utilise ce don-là. Et il m'a juste dit, ouais, je peux lui laisser ça, parce que sinon le reste, je suis pas très copain avec. Mais ça a ouvert comme une discussion, puis une réflexion. Il réalise, mais en fait, c'est discipler quelqu'un. Lui faire réaliser les dons que tu as, c'est Dieu qui les a donnés. Et puis, ce que tu fais avec, ça lui fait plaisir. Quand une caissière te sert avec son cœur, tu peux lui le dire. Merci parce que tu m'as apporté de la joie. Merci pour le travail que tu fais. C'est faire des disciples. C'est faire réaliser aux gens qui sont en train de poursuivre quelque chose que Dieu leur a donné. Donc, bougeons. C'est en bougeant que on réalise qu'on a besoin les uns des autres. Soyez bénis. Puis à bientôt. Papa, merci pour ton corps. Merci parce que tu nous as fait tellement particuliers les uns les autres. Tu nous as fait tous différents. Mais tu nous as créés pour bouger. Et je prie 2 choses. Je prie qu'on puisse avoir vraiment cette révélation alors qu'on est encore sans trop pouvoir bouger, que tu viennes nous révéler encore à quel point on est fait pour bouger. Que notre sens, on va le trouver pleinement que quand on est en train de faire des disciples, quand on est en train de partager autour de nous. Seigneur, viens nous révéler qu'est-ce que pour nous ça veut dire faire des disciples, alors qu'on est tous différents les uns des autres. Viens nous révéler le sens, viens nous aider à bouger, viens nous sortir de notre, peut-être d'un confort où on aurait pu être, ou peut-être d'une perte de sens, on ne sait plus pourquoi on est là. Viens rafraîchir tout ça, Saint-Esprit, dans ton nom puissant Jésus. Amen.